Comme plusieurs dizaines de camarades qui sont sur les listes de lutte ouvrière de l'agglomération, je travaille dans la santé. Dans l'hôpital où je travaille, nous sommes 3200, tous métiers confondus. Il y a les soignants, les infirmières, les médecins, les aides-soignants, les manipulateurs radio, les laborantins, les kinés et les ambulanciers. Mais il y a aussi des ascensoristes, des agents d'entretien, des statisticiens, des secrétaires, des déménageurs, des jardiniers ou encore des chauffeurs-livreurs. Venus des quatre coins de la planète, tous sont indispensables au bon fonctionnement de cette véritable petite ville dans la ville. L'hôpital est un formidable concentré des contradictions du monde capitaliste dans lequel nous vivons. D'une part, il y a les possibilités de guérison et de connaissance du corps humain permises par des médicaments et des technologies médicales ultra sophistiquées. Par exemple, je me souviens de non-voyants qui ont vu le monde pour la première fois après une chirurgie laser des yeux. Des greffes de foie qui mobilisent des centaines de personnes de nombreux métiers différents pour espérer sauver la vie d'un seul homme. Il y a les robots capables d'assister les chirurgiens pour des opérations délicates. On sait greffer des mains ou encore des visages. On fabrique des prothèses qui permettent de rivaliser avec les meilleures championnes olympiques. Et puis, plus récemment encore, le développement de l'intelligence artificielle est utilisé pour aider aux diagnostics médicaux. Mais à côté de cela, à l'hôpital, nous manquons des choses les plus élémentaires, telles que des couvertures ou des chauffages d'appoint qui permettent de chauffer à tour de rôle les chambres qui sont gelées. Il y a des seaux d'eau qui jalonnent les couloirs par temps de pluie et il n'y a pas de psychologue ou de psychiatre, sans parler des logiciels informatiques qui plantent tous les jours. En fait, l'hôpital est géré comme une entreprise. C'est la course à la rentabilité. Les suppressions de postes et les non-remplacements font retomber le travail sur ceux qui restent. On nous répète en permanence qu'il n'y a pas d'argent pour la santé ou l'éducation, pas d'argent pour construire le million de logements qui manquent, mais c'est un mensonge. Le budget militaire, lui, a augmenté de 6,7 milliards d'euros. Alors les travailleurs des urgences qui sont en grève actuellement aux hôpitaux Édouard Herriot et Lyon Sud ont mille fois raison de se battre. C'est la seule voie pour se faire respecter et s'opposer à la destruction des moyens de soigner la population. Et qui mieux que ceux qui travaillent pour savoir combien de bras il manque dans les différents services ? À l'hôpital, comme dans toute l'économie, c'est à ceux qui font tout tourner de décider. À Lyon, il y a deux mondes. Celui de ceux qui prennent le métro tôt le matin, les ouvriers, les femmes de ménage, les agents de sécurité, les éboueurs, les conducteurs de bus et de train, les manutentionnaires. Et puis à côté, il y a le monde des bourgeois, le monde de ceux qui s'enrichissent sur notre travail. Dans ce monde qu'on ne croise jamais, il y a le Lyonnais Alain Mérieux, propriétaire du groupe pharmaceutique Biomérieux. Avec ses presque 10 milliards d'euros, il est la 16e fortune en France, selon le classement de Challenge. Il y a aussi Christian Latouche, propriétaire du groupe Fiducial, qui propose ses services aux entreprises. Lui qui est 59e fortune française, avec plus de 2 milliards d'euros. Il y a aussi la famille Lescure, pas loin derrière, un petit peu moins de 2 milliards. Elle non plus n'est pas connue du grand public. Mais si je vous dis que ce sont les propriétaires de la marque d'électroménager Seb, ça vous dit probablement plus quelque chose. Eh bien, ce sont les mêmes qui sont assis sur leurs milliards qui ont annoncé vouloir supprimer 2100 postes. En fait, leurs fortunes, elles sont bâties sur l'exploitation et l'aggravation des conditions de vie des classes populaires. Et puis, on a notre bourgeois local, Jean-Michel Aulas, qui est, paraît-il, le favori pour remporter ses élections à la mairie de Lyon. Eh bien, lui-même est bien représentatif de ce monde des bourgeois. Après avoir revendu sa société Cegid, il est maintenant à la tête d'une holding financière. Sa fortune personnelle, elle est bien loin de celle des Mérieux, des Latouches et des Lescure, mais elle est tout de même estimée à 450 millions d'euros. Alors, lui, c'est un parvenu dans le monde des bourgeois. Mais sa liste est remplie de commerçants, de patrons de restaurants, d'auto-entrepreneurs, tous rebaptisés société civile. En tout cas, là où on peut être sûr, c'est qu'il entend bien servir sa classe depuis les salons dorés de l'hôtel de ville et encore plus grâce aux 4 millions de budget de la métropole. 4 milliards. Oui. À l'opposé de ce monde de profiteurs, à Lyon et dans toute l'agglomération, il y a aussi plusieurs centaines d'enfants qui sont privés de logement. Dans cette campagne, j'ai participé à un débat organisé par l'association Jamais sans toi. Et ce sont souvent les parents d'élèves qui s'organisent pour occuper les écoles et les gymnases, pour mettre à l'abri des familles entières qui sont privées de logement. À l'hôpital, avant, nous gardions les sans-abri qui n'avaient aucun endroit où aller. Mais maintenant, faute de place, ils sont remis à la rue. Le logement est un droit élémentaire. Il devrait être une évidence. Il est d'ailleurs inscrit dans la Constitution, à côté du droit d'avoir un emploi, avec la garantie que l'on connaît tous. Mais cela ne doit pas nous étonner, car dans le système capitaliste, le logement est une marchandise comme les autres, soumise à la loi de l'offre et de la demande. Tous ceux qui interviennent sur ce marché, promoteurs immobiliers, entrepreneurs du BTP, gestionnaires de biens, n'y voient qu'une source de profit sans avoir à se préoccuper des conséquences sociales de leurs choix. Et puis ces dernières années, la spéculation a encore aggravé la crise du logement, faisant exploser les prix. Les travailleurs sont condamnés à habiter toujours plus loin des centres-villes, ce qui multiplie encore les dépenses en transport et rallonge les journées de travail. Et pendant ce temps-là, des centaines de milliers de logements qui appartiennent à des banques, à des sociétés immobilières et financières, restent vides sans être réquisitionnés. Parce que dans cette société, le sacro-saint droit à la propriété privée passe avant le droit d'avoir un toit sur sa tête. L'actualité récente à Lyon a été marquée par la mort du militant d'extrême droite Quentin Dérenque. Si l'on ne peut que regretter cette mort, celle-ci a servi de prétexte à une campagne réactionnaire alimentée par un front allant du PS jusqu'au RN, en passant par les macronistes, pour diaboliser la France insoumise et l'extrême gauche, tout en blanchissant l'extrême droite désormais intégrée dans ce qu'ils appellent l'arc républicain. Le pompon a été atteint le samedi 21 février avec la manifestation rassemblant toutes les chapelles identitaires, royalistes, catholiques intégristes et néo-nazis. Malgré leur tentative pour se donner une image respectable, très bon chic, bon genre, les organisateurs n'ont pas pu cacher le véritable pédigré de ces participants. Slogans racistes et homophobes, insultes proférées contre les riverains qui marquaient leur hostilité. Sans parler des saluts hitlériens. Ils ont pu parader avec l'assentiment du gouvernement et de la préfète, tandis que Wauquiez faisait arborer le portrait de Dérenque sur la façade de l'hôtel de région. L'extrême droite, dans sa version brute au crâne rasé, ou dans sa version politicien cravaté à la Bardella, est une grave menace pour la classe ouvrière et pour tous ceux qui contestent l'ordre établi. Ces idées progressent, mais elles ne reculeront pas avec des batailles rangées dans les rues. La bataille contre l'extrême droite ne peut se mener réellement que sur un terrain de lutte de classe, celui de mobilisation collective qui entraîne le plus grand nombre de travailleurs, unis par-delà les origines, les statuts et les croyances. À Minneapolis, face aux milices d'ICE, envoyées par Trump pour rafler les immigrés, c'est une mobilisation populaire d'ampleur qui les a contraints à reculer. Des dizaines de milliers d'habitants ont commencé à s'organiser, ce qui a eu bien plus d'effet que l'action des juges et des politiciens démocrates. Ici, les médias n'ont cessé de présenter Lyon comme un bastion de l'extrême droite. Mais la ville que nous fréquentons tous les jours, la ville des travailleuses et des travailleurs, n'a absolument rien à voir avec ces gens-là. L'agglomération compte plus d'un million de travailleurs et l'extrême droite disparaîtra si nous avions conscience de la force, si nous nous battions sur un terrain social. À Lyon et dans toute son agglomération, les travailleurs viennent du monde entier. Sur nos listes, pour les municipales comme dans les entreprises où nous militons, il y a des camarades venus d'Afrique, d'Europe de l'Est, d'Asie, d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient. Certains ont des papiers, d'autres n'en ont pas. Certains ont obtenu la nationalité française et peuvent voter, d'autres sont encore privés du simple droit élémentaire de pouvoir s'exprimer par le vote. Pourtant, nous avons tous les mêmes problèmes à la fin du mois, les mêmes craintes pour l'avenir de nos enfants. C'est tous ensemble que nous faisons tourner les usines, les hôpitaux, les transports et les bureaux. Puisque c'est tous ensemble que nous travaillons, c'est tous ensemble que nous devons nous organiser pour combattre l'ordre social établi. Alors, à travers cette campagne, adressons-nous largement à celles et ceux de notre camp. Cherchons celles et ceux qui ne sont pas résignés, qui aspirent à combattre pour une autre société. Convainquons-les de faire un vote de classe, un vote de combat, un vote qui affirme que le seul avenir qui vaille le coup, c'est les travailleurs au pouvoir.